Radio Kapi.
Oh Kapi.
Patience Ngalula, la présentation. Les titres de ce journal, difficulté des connexions entre les Grands Nord et la ville de Goma. Les voyageurs tentent de sauver la situation en passant par les Rwanda et l'Ouganda. À la base, la persistance de la rupture du trafic routier entre Goma et les Grands Nord suite à l'occupation par le M23 d'une partie des territoires de Masisi et de Rutshuru. Des habitations et autres champs envahis par les eaux, les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur les territoires des Bukama en province du Olomami ont causé des inondations. La société civile redoute les cas de maladie car ils sont exposés à des intempéries. L'invité de ce journal, c'est Augustin Kabuya Mwanabute. Il est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, député national élu lors des élections du 20 décembre dernier et membre du présidium de l'Union sacrée. Il revient sur la victoire du président Tshisekedi et de l'UDPS, mais aussi les priorités pour ce deuxième quinquennat du chef de l'État. Madame, Messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, certains voyageurs en partance pour le Grand Nord de la province ou l'Ituri n'ont pas d'autre choix que de traverser les Rwanda et l'Ouganda pour atteindre leur destination. Cette situation est due à la persistance de la rupture du trafic routier entre Goma et le Grand Nord consécutivement à l'occupation par le M23 d'une partie des territoires des Masisi et des Rutshuru. Bernardin Nyangi.
On croit le témoignage d'un agent humanitaire qui a fait en début de cette semaine cette expérience de voyage entre Goma, Rwanda, Ouganda pour déboucher à Kasindi, Beni ou en Ituri. Il y a aussi l'activisme des rebelles ADF entre Beni et Ituri qui force les voyageurs à entreprendre ce long voyage.
Passer par Rutshuru, il y a les M23, des Beni jusqu'à Komanda, il y a les ADF. Donc on ne peut pas emprunter la route pour des raisons sécuritaires.
En plus de ces motifs sécuritaires, notre témoin parlait aussi du coût des billets d'avion qui est de plus en plus cher sur ce trajet.
Les billets d'avion actuellement, Bounia, Goma, c'est 241 $, plus les 15 $ de GoPass et la taxe de la province. Donc vous avez déjà 256 $.
Si on échappe à l'insécurité, ce long parcours de plus de 500 km devient aussi pour lui très pénible.
Imaginez-vous, vous commencez le voyage de 16h30. Toute la nuit, vous êtes en train de voyager. On est arrivé ici à Bounia, je pense, à 15h. En traversant les lacs Albert, c'est fatigant.
Rappelons qu'il y a peu, une société locale de transport routier annonçait une initiative de convoi entre Goma et Beni via le Rwanda et l'Ouganda. Mais ce projet peine encore à être lancé, alors qu'entre Goma et le Grand Nord de la province, le trafic reste toujours coupé. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu pour parler d'une autre position des rebelles, j'y arrive, M23, qui ont été la cible des tirs d'un drone de l'armée congolaise à Kilolirwe très tôt ce vendredi. C'est dans les territoires des Masisi, groupement Bachali Kaembe. Selon les sources locales, c'était entre 4h et 5h locales. Ces sources parlent d'une position des rebelles détruite. Sur leur compte X, les rebelles du M23 qui confirment l'information parlent plutôt des propriétés privées des civils et des vaches qui ont été tuées. Il mentionne aussi des maisons, y compris une fromagerie qui ont été détruites dans la ferme de l'Espoir. Rappelons qu'il s'agit d'une énième attaque par drone de l'armée congolaise qui vient de subir la rébellion du M23. Rendons-nous à présent dans la province du Olomami, où les fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours sur les territoires des Bukama ont causé des inondations. Des habitations et autres champs sont envahis par les eaux. Les sinistrés ont abandonné leurs habitations. Jusqu'à présent, ils sont sans assistance. La société civile redoute les cas de maladies car ils sont exposés à des intempéries. D'autres détails avec Kevin Kiangé, un habitant des Bukama, joint par Jean Gandou.
Bon, à Bukama, il y a inondation. Au quartier qui sont Ngobioni, il y a plus de 400 maisons qui sont inondées. Au quartier Lualaba, il y a plus de 200 maisons qui sont aussi inondées. Cette population inondée n'ont pas de place où rester. Ils sont en gare, ils dorment dehors avec les enfants, des endroits là qui sont sales, ainsi insécurité. Nous demandons l'assistance, sinon ça ne va pas. Il y a encore deux centres de santé qui sont aussi inondés. Un centre de santé au quartier Lualaba, un centre de santé au quartier Kisangawabioni, plus de 500 champs qui ont été cultivés sont aussi inondés. Ces gens-là demeurent en gare, n'ont pas de maison où habiter, nous demandons toujours de l'assistance, sinon ça ne va pas. Ainsi que cette période, nous courons la période du choléra. À Bukama, il y a choléra. Il y a des cas de choléra, de malaria, bon, ça ne va pas. Qu'il y ait de l'assistance, sinon ça ira trop mal. Cette population est en danger.
Autre chose à présent, deuxième jour c'est vendredi de la tenue des états généraux des forêts de la RDC à Kinshasa. Pour la société civile environnementale, les forêts du Haut-Katanga sont confrontées à de nombreuses difficultés dont les déboisements anarchiques et l'exploitation minière. On écoute Omer Kabassé, le président de la société civile environnementale, groupe technique climat RED rénové au micro de Jean Gandou.
Il y a un rythme de déforestation très élevé, car de la carbonisation qui autrefois était artisanale et maintenant c'est devenu semi-mécanisé. Ce sont des hectares de forêts qui partent dans la carbonisation à la recherche de l'énergie bois. Nous avons également la culture itinérante sur brûlis. Ajouté à cela, l'activité minière qui détruit de manière notable les forêts. Et à ce rythme, il n'y a pas une bonne gouvernance forestière en province. Il n'y a pas un plan de reboisement à grande échelle au niveau provincial. Ces états généraux devraient être un cadre de réflexion pour faire un état des lieux réel des forêts de la province du Haut-Katanga. Et c'est sur base de cet état des lieux qu'on pouvait prendre des éléments afin de trouver des dispositions palliatives à travers la réforme forestière, la bonne gouvernance forestière, la loi sur les forêts et même aller jusqu'à réfléchir sur la révision du code forestier devenu obsolète en ce jour.
Retournons au Nord Kivu, où depuis quelques semaines, plusieurs élèves des écoles secondaires de Beni font régulièrement l'école buissonnière. Ils s'adonnent à des différentes activités dans la ville au lieu de se rendre à l'école. C'est un reportage de Guylaine Kassassia.
À Beni, ces derniers temps, de nombreux élèves habillés en uniforme sont visibles à travers la ville aux heures des cours. D'autres passent la journée assis à côté de leurs écoles. Si certains disent avoir été refoulés pour raison du retard, d'autres par contre affirment avoir été refoulés pour non-paiement des frais scolaires.
On nous a refoulés à cause de l'argent. On a peur du travail à la maison. C'est pourquoi je reste ici.
Une situation dénoncée par certains responsables scolaires de Beni. Dieu merci Bassaï, directeur des disciplines du complexe scolaire Bassaï-Voussaï 1 parlent des élèves qui circulent même avec deux couteaux.
Les élèves que vous voyez ici à l'extérieur, tout près de notre concession, ils ne sont pas les nôtres. Il y a certains enfants qui circulent même avec des couteaux. Un élève qui n'étudie pas au sein de votre école, comment vous pouvez réussir de les chasser comme les vôtres? Ça semble être difficile.
Contacté, le chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Beni promet d'instruire les chefs d'établissement scolaire pour mettre fin à la pratique de l'école buissonnière. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Et puis cette information, hausse du prix du carburant et des biens de première nécessité dans le territoire des Manono, province du Tanganyika. D'après l'administrateur du territoire, un litre d'essence qui s'est vendu à 4 000 francs congolais il y a une semaine se négocie actuellement à 15 000 francs congolais. Cyprien Kitanga attribue cette situation à l'effondrement du pont Kiolo sur la route nationale numéro 33. Il précise que cette route permet d'approvisionner Manono en denrées alimentaires à partir de Lubumbashi. Ainsi, il lance un appel aux autorités pour la réhabilitation de ces ponts. Cyprien Kitanga, administrateur du territoire des Manono, est au micro de Paulin Munanga.
Je viens de confirmer l'information sur l'inflation de carburant. Vous savez, comme un litre s'est négocié à 4 000, actuellement ça se négocie à Manono, au centre, à 15 000. Vous savez, ça a impacté la vie économique de Manono. Il y a un pont qui a été cassé au niveau de Kiolo. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas de camion qui passe sur le pont. Et la route est vraiment dans l'état de délabrement au niveau de 25 km vers Manono.
Et actuellement, ce sont des motos qui circulent. Et puis les motos peuvent prendre combien comme marchandises qui va ravitailler Manono, qui est plus grand que le Rwanda, c'est compliqué.
Voilà un peu la situation qui prévaut chez nous ici à Manono. C'est pourquoi nous lançons SMS au gouvernement national et que provincial de pouvoir venir résoudre la situation tant soit peu pour soulager la population de Manono. Comme vous le savez, c'est la route nationale numéro 33. Et puis Manono est ravitaillé par Lubumbashi en denrées alimentaires. Ce qui est comme aliment de base provient de Lubumbashi du Haut-Katanga.
Dans la province du Maniema, les pluies abondantes qui se sont abattues toute la nuit du 16 au 17 janvier ont emporté les ponts Luhuku. Ces ponts d'une importance capitale se trouvent à 2 km de Kayembe, chef-lieu du secteur des Salamabila sur la route Kindu-Salamabila et à 27 km de Salamabila Centre. Maître Saïd Ivumba, activiste des droits de l'homme et notable des Salamabila qui alerte, appelle à l'intervention urgente du gouvernement provincial afin de remédier à ces problèmes. Il a été joint par Florence Kizalunga.
C'est depuis le 17 janvier 2024, aux premières heures de la journée, que les eaux de la rivière Luhuku ont emporté les ponts de celle-ci. Et vous savez vous-même que cette rivière se trouve à 2 km de Kayembe, chef lié du secteur de Bébé Salamabila, dans les Kabambar au Maniema. La route là vers Salamabila, c'est suite aux pluies abondantes qui se sont battues. Et il faut signaler aussi que cette route est d'importance capitale, étant donné qu'elle relie non seulement les chefs-lieux du secteur à la commune rurale de Salamabila, mais aussi... C'est une route qui mène vers le sud Kivu. Alors, les conséquences sont à soulever, notamment il y a rupture. Le camion ne passe plus, même les motos qui approvisionnent la cité de Salamabila ne passent plus, même les vélos. Et même les piétons ont du mal à traverser, étant donné que les eaux inondent jusqu'à Mena. Au stade actuel, la population cherche au moins des voies et moyens pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir une solution même provisoire en attendant que le gouvernement provincial puisse prendre des mesures afin de réhabiliter ces.
Au sud Kivu, la pénurie d'eau annoncée par la régie des eaux Bukavu il y a deux semaines ne fait que s'accentuer. Hormis les cassures sur la conduite principale vers les lycées Wima, les travaux routiers effectués à ces niveaux participent à la destruction de celles-ci. Bien que la régie des eaux fasse de son mieux, cela n'est que provisoire. Une demande est en cours à Kinshasa pour des tuyaux qui pourraient résister aux fortes pressions sismiques. Franck Saloumou, chef technique à la régie des eaux sud Kivu, dans cet extrait choisi par Rachel Kiesembangou.
Et comme nous sommes dans une zone à forte activité sismique, chaque fois que la terre bouge, notre tuyau bouge avec la terre et ça entraîne sa cassure. Mais actuellement, cette situation elle est de plus en plus due au fait qu'il y a des travaux routiers qui sont en train d'être exécutés à cet endroit. Et chaque fois que les rouleaux compacteurs passent, ça fait vibrer la soudure, ça entraîne la cassure. Nous faisons de notre mieux, nos équipes sont déjà déployées sur terrain pour que la cassure qui s'est manifestée soit rapidement colmatée. Mais ce n'est qu'une solution provisoire. En définitive, nous sommes en train de parler avec notre direction générale pour que nous puissions obtenir des tuyaux qui vont résister à ces mouvements du sol à cet endroit. Mais aussi, nous demandons à l'autorité provinciale que tous les habitants qui habitent les maisons environnantes soient déguerpis, que cet endroit reste vide, que nous puissions y planter des arbres.
Parlons également du manque d'eau potable pendant plusieurs années dans la commune rurale des Nyoki, située au territoire des Koutou, dans la province du Maïndombé. Les habitants font face à plusieurs difficultés pour accéder à l'eau qui, du reste, n'est pas propre à la consommation, a annoncé jeudi 18 janvier 2024 à Radio Okapi, la société civile locale. À la base, l'incapacité de la régie de distribution d'eau, régie des eaux, à desservir toute la population en eau, sans oublier les vieillissements et les mauvais états des sa tuyauterie qui n'inspire plus confiance à la population. Le vice-président de la société civile Giscard Mbukela dit craindre des maladies hydriques et plaide auprès des autorités pour la fourniture en eau potable à Nyoki, l'une des grandes cités du Maïndombé. Des explications avec vous, Irène Mbomaluzolo.
Dans plusieurs quartiers de la cité de Nyoki, par exemple à Kempeka et à Kingabwa, les habitants consomment l'eau de la rivière Mfimi ou des puits non traités et d'autres encore utilisent l'eau des sources non entretenues. Les femmes et les filles et aussi les revendeurs d'eau éprouvent d'énormes difficultés pour accéder à l'eau potable. Ils doivent parcourir plusieurs kilomètres avec des gros récipients sur la tête ou au dos à la recherche d'eau des sources qui, malheureusement, est impropre à la consommation. C'est ce qu'a déclaré Giscard Mbukela, vice-président de la société civile de la cité de Gnocchi.
À Gnocchi, il n'y a pas d'eau potable, c'est source d'eau là. Mais au moment où nous parlons, il y a des maisons d'habitation au-dessus de ces sources d'eau. Et vous imaginez, il y a des toilettes, quand il pleut comme ça, tout va descendre dans ces sources d'eau là, la régie des eaux. Un état de délabrement très avancé à tel point que les tuyaux partout sont troués et la population n'a plus confiance à cette eau là. Et puis, il n'y a pas assez de robinets.
Giscard Mbukela, qui redoute les maladies hydriques, en appelle à la responsabilité des autorités compétentes.
Les autorités doivent plonger à ce problème. Il n'y a pas d'eau, donc ça donne accès à beaucoup de maladies à caractère hydrique.
Contacté à ce sujet, les responsables de la régie des eaux sur place se réservaient de tout commentaire. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le gouvernement annonce avoir déjoué un projet de déstabilisation du pays. Les communiqués du gouvernement évoquent un réseau de plusieurs militaires en fonction, militaires radiés et des civils, dont l'objectif aurait été de s'attaquer aux institutions de la République. Le gouvernement de la transition a dévoilé les détails de ces scénarios qui auraient bénéficié du soutien extérieur, selon lui. Dans ses communiqués signés du porte-parole du gouvernement de transition, c'est la date du 14 janvier qui aurait été arrêtée pour le membre du réseau démantelé. Des individus contactés dans différentes casernes militaires du Faso devaient organiser une mutinerie servant de point de départ au processus de déstabilisation.
L'invité.
Radio Okapi reçoit dans ce journal Augustin Kabuya Mwanabute. Il est secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS, député national élu lors des élections du 20 décembre dernier et membre du présidium de l'Union sacrée. Interrogé par Michel Kifin Dangoy, notre invité revient sur les élections du 20 décembre dernier, la victoire du président Tshisekedi et de l'UDPS, mais aussi les priorités pour ce deuxième quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez.
Monsieur Augustin Kabuya, bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, comment avez-vous accueilli les résultats de la présidentielle et de la députation nationale?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de joie. Puis c'était ça notre objectif principal, c'était de gagner les élections, comme cela s'était matérialisé et concrétisé à travers la position de la Commission nationale électorale indépendante. On ne pouvait que se réjouir par rapport à cette étape-là.
L'UDPS a pu obtenir 69 députés. Et que comptez-vous faire pour consolider votre victoire?
Quand nous faisons la sommation de ce que nous avons obtenu comme 69, et puis les restes là de nos partis mosaïques, nous sommes dans les 140 quelques. Je dois être correct avec vous pour ne pas passer de fausses informations à nos auditeurs. Nous avons pris notre temps. Dès les premiers jours après l'investiture de son Excellence Félix Tshisekedi, vous êtes sans ignorer que nous avons passé tout notre temps à travers la République à mener la campagne de redynamisation des structures de base du parti. Puisque les élections, c'est que les gens oublient, c'est quoi? Les élections ne se préparent pas à la veille. Les élections, c'est tout un processus qui nécessite vraiment du sérieux. Et nous avons passé tout notre temps à préparer les élections. C'est comme ça que nous aussi, à notre niveau, nous avons préparé la victoire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo.
Ces résultats ont suscité des mécontentements, notamment de l'opposition qui a demandé carrément l'annulation, mais on constate aussi une montée des protestations au sein même de l'Union sacrée.
C'est un problème de l'honnêteté, c'est un problème de l'éthique, puisque les gens veulent tromper même là où il ne faut pas tromper. Je ne trouve pas ça normal. Quelqu'un peut revendiquer tout en respectant les lois de la République. Mais quand vous vous sortez, vous brûlez les pneus, vous perturbez l'ordre public. Je ne pense pas que ça sera une bonne chose.
L'UDPS l'a aussi fait en 2011. Hein?
Mais ici, tu ne m'as pas posé la question que qu'est-ce que l'UDPS avait fait en 2011. Tu m'as posé la question par rapport au contexte actuel. Mais quand je te réponds, tu me dis que l'UDPS l'avait fait aussi. Non, parlons de ce processus. C'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui.
Alors, certaines personnalités de l'UDPS, voire de l'Union sacrée, décrivent la manière dont vous gérez les partis. Et pour l'Union sacrée, on vous accuse d'avoir été à l'origine des trupatriages des résultats des dernières élections. Comment répondez-vous à tout cela?
Il n'y a que les gens malhonnêtes qui peuvent, excusez-moi pour le terme, il y a des gens malhonnêtes qui peuvent réfléchir de cette manière-là. En ce qui concerne la gestion du parti, je peux vous rassurer ici qu'un parti mal géré ne peut pas occuper la première place. J'ai géré ce parti dans toute la transparence possible. Aujourd'hui, l'UDPS est sorti première formation politique de notre pays avec 69 députés. Mais vous allez trouver les mêmes personnes qui vous disent que non, Kabuya gère mal le parti n'est pas bien géré. Quand on parle de tripatriage, qu'est-ce que je fais? J'avais pris des distances jusqu'au moment où je vous parle. Si vous posez la question responsable de la CENI, je suis des rares politiciens de notre pays qui a gardé sa dignité. Je ne pouvais pas aller là-bas. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais.
Sur certains médias, vous avez déclaré que le mandat de député n'est pas incompatible avec vos fonctions de secrétaire général de l'UDPS, ce qui est vrai. Pensez-vous que le fait de cumuler les deux fonctions vous permettra de bien les assumer?
Mais je n'ai pas encore commencé à travailler. Pourquoi ça nécessite un débat?
Alors, quelle sera la contribution de l'UDPS pour permettre au président Fatshi de réussir son second mandat?
Mais l'UDPS a toujours accompagné les chefs de l'État. Nous sommes disposés. Quand il va présenter son programme, nous serons toujours derrière pour l'accompagner, pour les soutenir. Voilà un peu notre position.
L'UDPS, c'est un parti de masse. Vous êtes chaque jour avec la population et vous savez de plus près les besoins de la population. À votre avis, que doivent être les priorités du chef de l'État pour son deuxième quinquennat?
La priorité par rapport au second mandat du chef de l'État, d'abord, je tiens à vous préciser que la population a fait sa part des choses. C'est à nous maintenant d'appliquer notre politique de peuple d'abord, de prendre en compte le social de la population. Tout ce qui est devant nous est prioritaire. Et il y a les points politiques, sécuritaires, sociaux. Je vous dis, tout est prioritaire pour nous. Puis c'est le dernier mandat.
Monsieur Augustin Kabuya, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal, madame, messieurs. Il a été mis en onde pour vous par Jean-Claude Ntiala, coordination de Jacques-Yves Molima. Patience Ngalula à la présentation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie de Nicole Koudjangila.